radio de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et merci de nous suivre sur les 96.0 FM Abidjan et ses environs. À la une de cette édition de la mi-journée, on parle de la cérémonie d'hommage au chef de l'État. Alassane Ouattara a été célébré pour ses actions de développement par le peuple Hatchan. Les détails à l'entame de ce journal. Les déguerpissements dans le district d'Abidjan n'ont pas de raison valable et ne tiennent pas compte des populations. On fait ressortir les panélistes lors de la conférence du Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP. Le gouvernement a été appelé à plus d'humanisme. Dans l'actualité sous-régionale, les Togolais élisent leurs députés ce lundi après l'adoption de la nouvelle constitution récemment. Et nous terminerons ce journal avec l'invité de la rédaction, notamment la ministre Naseneba Touré, par ailleurs maire d'Odiéné, qui reviendra sur les enjeux du don de plusieurs infrastructures à la localité. Ce sera en fin d'édition avec notre correspondant Bakary Touré Labasse. Voilà pour le sommaire. Les Ivoiriens doivent pouvoir s'engager pour la paix et la cohésion dans le travail. C'est l'un des principaux axes d'une cérémonie d'hommage au chef de l'État organisée par le peuple Hatchan samedi dernier à Songon en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et du haut représentant du chef de l'État, Kone Kafana. Junior Cardin y était également, son compte-rendu.
Ils sont venus des villages Hatchan ainsi que des régions environnantes pour cette cérémonie de reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement à leur endroit. Au nombre des intervenants, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, fils Hatchan.
La Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Il y a des bureaux d'études qui ont fait des analyses dans le monde entier et particulièrement en Afrique. Ils sont arrivés à une conclusion. Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes de bonne humeur, solidaires, sérieux, travailleurs. Et les Ivoiriens n'aiment pas qu'on s'amuse avec leur pays.
Au nom du président Alassane Ouattara, son haut représentant, Kone Kafana, a engagé les Ivoiriens à œuvrer pour la paix.
Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens, notre engagement au service de la nation. Chers chefs coutumiers, peuple Hatchan, peuple de Songon, nous nous tenons devant vous pour prendre l'engagement de consolider aux côtés du président de la République le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays.
La réflexion de la voirie Abidjan-Jacquesville et Abidjan-Dabou a été longuement citée et saluée lors de cette cérémonie.
Merci à vous, Junior Cardin, pour ce compte-rendu. Et d'une cérémonie d'hommage, nous passons à une autre, cette fois, d'intronisation pour parler de El Hadj Timoko Touré, qui a reçu à Kolia officiellement ses attributs de chef de canton. C'était le samedi dernier à l'esplanade du foyer des jeunes de la localité en présence des ministres Amadou Koulibaly et Bruno Kone Nabagné, témoin pour Radio de la Paix, Tommy Corona.
Pour Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et parrain de la cérémonie, cette action est à mettre à l'actif du premier des Ivoiriens.
Cette cérémonie d'intronisation du chef de canton Timoko Touré est aussi le lieu de remercier le chef de l'État pour sa vision. Vision qui a permis de donner de la dignité et du pouvoir à nos chefs par la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels, qui fait partie du dispositif constitutionnel de nos institutions.
Puis il décline le rôle de ses gardiens de nos us et coutumes. Amadou Koulibaly.
Je voudrais vous dire qu'à l'instar des chefs de village, votre rôle est de maintenir la paix et la cohésion dans votre canton. Vous devez être un auxiliaire de l'administration. C'est vous qui devez aider à faire passer les messages de l'administration.
Président de la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné Kone dira que l'intronisation du chef de canton de Kolia a un sens.
L'intronisation du chef de canton va au-delà du geste traditionnel. Elle nous permet en réalité d'exprimer clairement et publiquement notre adhésion au renouveau et à la continuité. D'affirmer notre reconnaissance en un référent moral, d'affirmer notre soumission à l'autorité de ce référent moral.
Il convient de noter que El Hadj Timoko Touré est le 8e chef de canton du Niené Sud. Tommy Corona, de retour de Kolia, Radio de la Paix.
Et à la faveur de l'intronisation du chef de canton, le ministre de la Communication, également parrain de la cérémonie, a lancé un appel aux chefs traditionnels de cette région afin qu'ils s'impliquent pleinement dans la sensibilisation de leurs administrés pour l'inscription sur la liste électorale. On écoute le ministre Amadou Coulibaly.
La commission électorale indépendante a annoncé la révision de la liste électorale. Vous avez le devoir de faire en sorte que tous ceux qui ont le droit de voter, qui ne sont pas encore inscrits, puissent l'être sur la liste électorale. Quand la période sera effectivement ouverte, il faut que tous les fils et toutes les filles de Kolia s'inscrivent. Mais vu que tous les chefs sont là, il faut que toutes les filles et tous les fils de la Bangui s'inscrivent sur la liste électorale quand la période sera effectivement ouverte. À ceux qui voient le diable partout, je veux dire qu'il n'y a rien de politique. C'est un droit citoyen. C'est même un devoir, je dirais. Après, les partis politiques seront libres de venir appeler à voter pour leur candidat. Mais l'inscription est un devoir républicain. L'inscription est un droit citoyen, l'inscription est une attitude civique et c'est à ce civisme que je vais appeler toutes les filles et tous les fils de la patrie. C'est de la lucidité citoyenne.
À l'instant, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan, l'irrécevabilité des arguments et la non-implication des populations sont les constats clés de la conférence organisée par le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, le CERAP, le 26 avril dernier à ce propos. Dr Boga Sakho-Gervais et l'architecte Jean-Marc Dommelo ont exposé sur la question en présence du député Michel Gbagbo et du père Norbert Abekan. Christelle Yesso y était également, son compte-rendu.
Dr Boga Sakho a débuté en analysant les arguments de l'État pour expliquer les déguerpissements.
Le dernier argument, il dit, c'est de préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, Abidjan se modernise en repoussant les ports vers la périphérie. Voici l'image qu'on a donnée de notre pays.
Pour lui, ces actes de déguerpissement sont une atteinte aux droits humains.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1er, très clair, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Que je sois pauvre, j'ai le droit aussi de vivre là où il est pauvre. Donc si tu veux que j'existe au moins, dans ce cas-là, il faut construire.
Quant au deuxième intervenant, l'architecte Jean-Marc Dommelo, il a pointé la non-implication des populations par l'État dans la restructuration des villes.
Le problème des quartiers précaires est un problème qui date depuis plusieurs années. Il y a une cassure, il n'y a pas de lien réel entre la population et ses outils de l'État. On a vu par exemple qu'en 1997, le quartier Washington avait été complètement rasé, ils ont été relocalisés à Biabou. Mais on a observé que quelques années après, les gens de Biabou sont revenus sur le site de Washington et ont mis en location les maisons qui leur avaient été données à Biabou. Pourquoi ? Parce que les gens, les populations veulent être proches de leur lieu de travail et donc tous ces processus-là n'ont pas été pris en compte avant de les déguerpir.
La conférence s'est achevée par une invitation à l'État à faire preuve d'humanisme et à impliquer davantage les populations.
Et puis, comme vous le savez, chaque 1er mai se célèbre partout dans le monde la fête du travail. Et d'ordinaire, c'est à cette occasion que les travailleurs aussi bien du public que du privé posent leurs différentes préoccupations aux dirigeants de leur pays. En Côte d'Ivoire, c'est ce que la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs annonce vouloir faire ce 1er mai 2024, surtout par rapport aux écoles privées, tout en dénonçant sa mise à l'écart de la cérémonie officielle. Écoutons son président Théodore Zadignania, joint par Francis Cassi.
Pour ce 1er mai 2024, la Confédération Plateforme Nationale attend, dans un premier temps concernant le secteur public, que les dispositions des accords soient respectées dans leur ensemble, notamment au niveau des discussions sectorielles, au niveau, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale. Pour le moment, on n'a pas encore enclenché véritablement les débats. Donc, il y a également des inquiétudes. Au niveau des revendications, les fonctionnaires demandent que les primes trimestrielles soit attribué à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Au niveau du secteur privé, nous souhaitons voir une plus grande implication de l'État au niveau de l'école privée, parce que à partir du mois de juin, les enseignants de ce secteur sont laissés pour compte et souffrent. Et souvent, cela dépeint négativement sur les résultats des examens, quand on sait que dans notre pays, plus de 60% du système éducatif est aux mains du secteur privé. Donc, il faut que l'État accompagne ce secteur plus vigoureusement, tant dans le recrutement des enseignants que dans leur rémunération. Enfin, la plateforme nationale, qui est une confédération syndicale, demande enfin qu'elle soit reconnue pleinement et entièrement sur la liste des 6 centrales syndicales reconnues en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, elle n'est pas invitée officiellement aux activités du 1er mai. À la primature, c'est une grosse injustice quand on sait le rôle que nous jouons dans la préservation de la paix sociale. Voilà un peu nos préoccupations pour ce 1er mai.
Le président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Théodore Zadi Nyanya. Notons que la cérémonie officielle de la fête du travail ce 1er mai se tiendra au cabinet du Premier ministre à Abidjan Plateau. Et s'agissant des médias en Côte d'Ivoire, l'IGOA Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire a remporté le Super Ebony 2023 lors de la traditionnelle nuit des ébonies qui a eu lieu le samedi dernier à Yamoussoukro. En plus de son Graal, il a également raflé 4 autres prix spéciaux, notamment le prix spécial pour la promotion des transports, le prix spécial de la promotion de la solidarité, le prix sectoriel du meilleur journaliste économique et le prix spécial de la promotion de l'innovation technologique. L'IME nous livre ses premiers mots après son sacre de samedi soir.
C'est avec honneur que je reçois ce prix. Ce prix qui vient couronner plusieurs années de sacrifices. La marche aurait été longue, empreinte de beaucoup d'obstacles et de difficultés. Mais le Seigneur s'est glorifié ce soir et la cloche a sonné. J'ai parlé d'une marche difficile. Aujourd'hui, ce prix honore l'IME, honore la rédaction de Radio Côte d'Ivoire, honore toute la grande famille de la RTI. Mais l'œuvre n'a pas commencé à la RTI. C'est bien à Radio Yopougon que cette œuvre a pris. Je voudrais dire merci à cette grande famille, cette grande école qui a donné à la Côte d'Ivoire le grand professionnel de la communication. Je voudrais, vous l'avez deviné, dédier ce prix à mon épouse, qui a toujours été là. Elle a parfois joué le rôle de mère et de père en même temps parce que j'étais tout le temps parti. Ce soir, ses efforts sont récompensés. Je lui dédie ce prix. Merci à ma famille. J'ai une pensée pour mon père et pour ma mère, pour tous mes frères et sœurs. J'imagine ce soir toute leur fierté. Je voudrais, vivre avec votre permission, m'acquitter d'un devoir. Un devoir de gratitude et de reconnaissance envers mon mentor, celui qui m'a tenu par la main et qui m'a toujours soutenu. Je voudrais dire merci, infiniment merci à M. Roger Saïba. Il m'a tout donné, il m'a tout appris. Que Dieu le bénisse. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter le Super Ebony 2023, l'IGOA Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire. Parlons de protection des parcs et réserves. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a décerné des prix verts à des villages riverains ayant contribué à la protection du parc national de Taï à hauteur de 10 500 000 francs CFA. C'était au cours de la première session du comité de gestion locale du parc national de Taï pour l'année 2024, tenue le 26 avril dernier à Guiglo. Le compte-rendu est signé Jean-Claude Mabéa.
Sur 38 dossiers reçus pour cette 6e édition du concours du prix vert, 3 ont retenu l'attention du jury. Les précisions du représentant du directeur général de l'OIPR, le colonel-major Ouattara Kassoum Draman.
Il s'agit de récompenser les efforts fournis par les populations. Et les prix qui sont donnés doivent permettre à ces populations de réaliser des infrastructures. Ce n'est pas de l'argent espèce qu'on donne aux populations pour les partager. Donc, avec l'apport qui a été fait, des villages ont pu terminer les infrastructures sociales que ces villages avaient commencé. Il s'agit d'écoles qui ont été réhabilitées, il s'agit de la finalisation du logement d'une sage-femme.
Le premier prix d'un montant de 5 500 000 francs CFA est revenu au village de Zaïpobli dans la sous-préfecture de Zagné. Taï Bloadé Donatien, le chef du dit village.
Ce prix, Dieu merci, ça nous aide à développer nos infrastructures, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau scolaire, comme au niveau social.
Représentant le préfet de région du Cavali, Kwaku Kalidja Kwame, préfet du département de Tabou, a salué cette initiative de l'OIPR avant de lancer cet appel au village. villages autour du parc.
Je demande à toutes les populations riveraines de se mobiliser pour participer à ce concours en montrant qu'ils sont fiers d'avoir la forêt à côté d'eux et aider à la préserver.
En somme, la Banque mondiale, à travers le projet d'investissement forestier PIF 2, a octroyé 10 millions de francs CFA aux trois villages lauréats et un prix spécial de 500 000 francs CFA attribué au premier par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité hors de nos frontières, les Togolais ont commencé à voter ce lundi matin pour élire leurs députés et conseillers régionaux à l'ouverture d'un des bureaux de vote à Lomé, la capitale, aux alentours de 8 heures ce matin. Pas d'affluence massive, mais des électeurs sereins venus voter dans le calme, selon l'agence France Presse. Ce double scrutin législatif et régional intervient dans un climat politique très tendu après l'adoption le 19 avril d'une nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel, un régime parlementaire. Et donc, désormais, le pouvoir réside entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel sera le chef du parti majoritaire à l'Assemblée. Place à l'invité de la rédaction à présent, avec notamment la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséneba Touré, également maire d'Odienné. Elle revient sur les enjeux du don de plusieurs infrastructures à la localité, trois ouvrages scolaires. Et au terme de cette remise, elle a bien voulu se confier à notre correspondant sur place, Bakary Touré Labasse. Un entretien.
Madame la ministre,
à
bonjour.
Suivre maintenant.
Bonjour. Vous venez de livrer à la fois des infrastructures sanitaire et éducative. Alors, est-ce à dire que ce sont ces deux volets qui constituent vos priorités majeures?
Ces deux volets importants validés en conseil municipal parce que nous convenons que l'éducation est la porte d'entrée à tout développement. Alors, il faut savoir, il faut pouvoir s'éduquer sur les besoins de la commune, sur les réalités d'aujourd'hui, de demain.
Au-delà des trois ouvrages scolaires livrés ce matin, vous mentionnez un peu plus tôt ne pas vous arrêter en si bon chemin. Alors, pouvez-vous être plus explicite?
Je l'ai dit dans mon propos, c'est 22 classes, mais nous avons un projet étatique avec les bailleurs dont les représentants seront la fin mai pour la construction d'une école primaire dans chaque quartier. Nous avons 24 et un centre de santé pour deux quartiers. Et 24 quartiers, c'est 12 centres de santé. Et à côté de ça, nous avons la BID. Nous allons avoir très prochainement, peut-être pour la rentrée qui vient, l'ouverture du lycée de jeunes filles d'Odienné, financé par la Banque islamique de développement, qui pourra recevoir 1500 élèves. Et je voudrais boucler le tout avec l'université d'Odienné. Nous voudrons aussi profiter de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les actions qui ont été posées, qui sont en train d'avoir lieu en ce moment et qui sont à venir. Et lui dire que Odienné, ses parents, dans leur ensemble, lui apportent tout leur soutien pour continuer l'œuvre de développement qu'il a entrepris depuis longtemps.
Dernier de la classe en matière de la scolarisation de la fille, il y a peu. Alors aujourd'hui, que disent les chiffres en matière de la scolarisation de la petite fille dans le Kabadougou?
Il y a 10 ans de cela, où le taux de scolarisation de la petite fille était à 37%, aujourd'hui elle est à 50%, même un peu au-delà de 50%. Je dirais qu'il y a plus de petites filles scolarisées à Odienné que de petits garçons. Ça, c'est déjà une victoire. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nous devons nous assurer qu'il n'y a personne qui est laissé pour compte. Que ceux qui viennent de familles vulnérables, ceux qui n'ont pas les moyens, du fait que la scolarisation est une obligation de par la loi ivoirienne et que l'école est gratuite, la collectivité, en tant qu'État décentralisé, va dans cette droite ligne de la décision de l'État central à travers les tests de loi pour s'assurer que tous les enfants ici à Odienné sont instruits, donc sont scolarisés.
Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vous êtes sans savoir que, qu'en milieu rural, l'économie repose à 90% sur les femmes. Et le hic est que la pauvreté au sein de nos villages a un visage féminin. Alors, comment inverser cette tendance afin d'offrir la prospérité aux mamans dans nos villages?
Alors, la réponse à ça est simple. C'est un problème socio-culturel. Puisque si la pauvreté a un visage féminin, la main-d'œuvre de l'agriculture est à 90% féminin dans notre zone. Donc, c'est des problèmes socio-culturels qu'il faut régler selon les environnements pour que des codes-parts de l'agriculture reviennent aux femmes. Mais ces mêmes femmes, il faut les sensibiliser parce que ces femmes-là conviennent que travailler pour leurs époux et pour leurs fils à moindre coût est la situation normale. Donc, ça demande de la sensibilisation que nous avons commencé. Et après cette sensibilisation, les résultats sont faibles, mais ils ne sont pas à négliger, puisque des sociétés malinquées millénaires, il y a une mentalité, il y a une tradition. Et pour inverser cette tendance positivement, sans pour autant rejeter la tradition et la culture, il faut un temps de sensibilisation avec un financement à la sensibilisation. Et nous parvenons à le faire, nous l'avons fait. Alors, je dirais que ça serait pessimiste de dire que la pauvreté a un visage féminin, parce qu'aujourd'hui, sur les 224 villages, nous avons des femmes championnes. Et je pense qu'il y a une qui a été décorée en présence de la première dame, qui a une ONG de 2000 femmes dans la région du Guakuru-Saba. Et toutes ces femmes ont un compte à la COPEC. Elles sont arrivées à réaliser des projets. Elles payent les études de leurs enfants. Et en 10 ans, nous avons créé un fonds de 20 millions. Et en revolving, ce fonds est au-delà de 100 millions aujourd'hui parce que les femmes remboursent.
Madame Touré Nasseneba, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, merci.
Merci beaucoup. Merci.
Vous suiviez l'invité de la rédaction, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, était l'invité dans un entretien conduit par Bakary Touré Labas, notre correspondant à Oudiéné. C'est la fin de cette édition, le rappel de l'essentiel. Cérémonie d'hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, célébrée par le peuple Adjan pour ses actions de développement. Les déguerpissements dans le district d'Abidjan n'ont pas de raison valable et ne tiennent pas compte des populations, ont fait ressortir des panélistes lors de la conférence du Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP. L'État a été appelé à plus d'humanisme. Et puis dans l'actualité sous-régionale, les Togolais élisent leurs députés ce lundi après l'adoption de la nouvelle constitution récemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de la presse ivoirienne avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est connu.